BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos rubriques, le coup de cœur de la rédaction et puis des études et encore des études et des chiffres. N'oubliez pas nos comptes sur les réseaux sociaux. C'est simple, c'est la librairie de l'écho, quel que soit le réseau social. Pour retrouver toutes les références précises des livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. L'intelligence artificielle s'installe au cœur de presque toutes les chaînes de valeur des entreprises, autant pour transformer leur organisation interne, leur processus de décision, que pour redéfinir leurs offres clients. Alors comment l'intelligence artificielle va révolutionner la façon dont les entreprises fixent leurs prix? Comment des dirigeants peuvent-ils, grâce à l'IA, décider mieux et agir plus vite et plus efficacement? Réponse avec nos deux invités. Augustin Manchon, bonjour.
Bonjour.
Augustin, vous êtes professeur à HEC et à Dauphine. Vous êtes conseiller aussi de dirigeants et vous publiez avec François Candelon « IA est revenu, agent ou dirigeant ». Qui décide, c'est aux éditions Ellipse. Et puis Paul Boffa-Combi, vous êtes présidente et CEO de Rethink and Lead, entreprise que vous avez fondée il y a 20 ans, et vous publiez Le pouvoir d'agir augmenté pour naviguer ensemble dans un monde sans repère. Je démarre avec vous, François, non pas François Candelon, Augustin Manchon, pardon. Jusqu'ici, en gros, c'était simple, l'entreprise, elle décidait d'un prix, elle le proposait aux clients. Par contre, vous dites, demain, tout va changer. Les agents IA pourront observer le client, anticiper sa demande, bref, faire des prix sur mesure. Vous dites que nous rentrons dans l'ère des prix vivants, des prix qui respirent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que toute cette stabilité que nous avons eue pendant des milliers d'années, finalement,
ouais.
Eh bien, elle vole en éclats. Et en même temps, vous avez plusieurs révolutions. Vous avez parlé de deux de ces révolutions. La révolution de la rapidité, du prix dynamique, qui permet de s'ajuster à beaucoup de facteurs, mais à une vitesse peu connue, qui était déjà connue depuis 20 ans, mais là, c'est beaucoup plus rapide. La personnalisation, on a beaucoup plus d'informations sur chaque client, sur chaque circonstance, sur chaque contexte, avec des quantités incroyables. Et on peut l'adapter en temps réel à votre besoin, mais aussi à une opportunité qui n'est pas forcément avouable.
Alors, le phénomène, on le connaît déjà un peu avec les billets d'avion, les hôtels, les VTC, etc. Mais vous dites, demain, cette pratique, elle sera généralisée quasiment partout.
Elle est en train de se généraliser dans beaucoup de secteurs, là où on ne la voyait pas arriver. Et en fait, parce que d'abord, c'est possible. Et ensuite, parce qu'il y a toujours eu un défi qui est de savoir quelle est la propension d'un client à acheter quelque chose. Il avait des sensibilités différentes, des moments différents, etc. Cela était difficile à gérer et on avait un prix unique. Le prix dynamique s'est rapproché de cela, mais c'est encore relativement rigide. Vous savez, c'est par segment de clients, business, affaires, etc., ou individuel. Et là, ça devient individuel et ça devient circonstanciel. Mais il y a un autre phénomène dont je n'ai pas encore parlé qui est peut-être le plus important, qui est qu'au-delà du dynamisme, au-delà de la continuité, au-delà de la personnalisation, il y a l'autonomie. Et ça, c'est une révolution qui m'a obligé moi-même d'ailleurs à réécrire un petit peu le début de mon livre,
ouais,
à l'arrivée des agents. Les agents, c'est un phénomène que tout le monde doit bien sûr connaître, et j'espère que le connaîtra bientôt, qui révolutionne tout. Il y a une autonomie.
Alors, explique, tout le monde n'est pas forcément familier.
Absolument.
C'est une question, l'agent IA, c'est en gros, finalement, une IA qui va travailler pour vous. Finalement.
C'est ça. On est habitué à dialoguer avec un chatbot, on est habitué à poser des questions, à avoir des réponses, et tout s'arrête là, jusqu'à la prochaine question. Là, vous donnez une mission, vous donnez un objectif, un peu vague, un peu précis, et vous partez. Et il agit, il décide, ce qui est important, il glane d'informations, il apprend, et tout ça, imaginez, vous l'avez fait travailler pendant 2 minutes avec un chatbot, là, vous le faites travailler pendant 2 jours ou 2 semaines.
Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, vous aurez les agents IA du vendeur.
Exactement.
Qui vont discuter avec les agents IA de l'acheteur, indépendamment quasiment de l'un et de l'autre, et que c'est comme ça que se feront les transactions.
Ben, il y a déjà des agents isolés, disons, au niveau des achats, au niveau des ventes. On commence à voir des situations où les deux se rencontrent et ben, les deux dialoguent au point que ben, la décision de combien je vais acheter ou combien je vais vendre, ouais. c'est délégué à des agents.
Alors, on est quand même là dans une révolution de la théorie économique, dans la mesure où finalement tous les mécanismes de formation des prix qui ont été théorisés par tous les grands penseurs, finalement, là, ils sont quand même remis en question. D'abord, premier point, l'entreprise connaît assez imparfaitement la disposition à payer de chaque consommateur. C'est-à-dire, chaque consommateur n'a pas vraiment révélé ses préférences. Là, l'IA, elle va permettre de découvrir exactement combien chacun est prêt à payer.
Et justement, parce que vous avez ce pouvoir de connaissance, à supposer que ça soit parfait, parce que ça sera peut-être pas complètement parfait, mais vous l'avez, en plus elle bouge dans le temps, vous pouvez maintenant vous y adapter, vous y coller. Mais justement, parce que ce pouvoir qu'on n'a pas eu pendant des milliers d'années, nous l'avons maintenant, il commence à y avoir des problèmes. Parce que, on le sait très bien, ça peut donner lieu à la discrimination, ça peut donner lieu à beaucoup d'autres aspects moins louables et ou difficiles à gérer. Et donc, il faut mettre des règles pour gérer cela.
Alors, on va y arriver. On va y arriver. Mais je vous dis ça parce que, au premier abord, on se dit, bah, c'est quand même un gros avantage pour l'entreprise. Et puis finalement, on se dit, bah non, parce que c'est aussi l'IA quelque chose qui donne beaucoup de pouvoir au consommateur, dans la mesure où finalement, bah, c'est souvent lui qui est en déficit d'information par rapport à l'entreprise. Or là, vous dites finalement, le consommateur, ça lui redonne aussi du pouvoir sur le vendeur.
Le pouvoir augmente en fait pour tout le monde, mais sauf que ça se fait à une vitesse, disons, variable. Aujourd'hui, disons que c'est plutôt les entreprises qui mettent des agents en place. On va bientôt voir des agents de la part du consommateur, dépend de l'acheteur. Ça existe déjà en B2B maintenant, dans le commerce d'État également. Et là, ce pouvoir-là, c'est vrai qu'il peut augmenter celui du consommateur. Il peut comparer plus facilement. Donc, tout le monde devient plus efficace, si vous voulez, dans sa fonction de base, qui est de négocier le meilleur prix. Mais là, il y a des aspects un peu insidieux. Par exemple, vous avez parlé de l'acheteur et du vendeur. Il y a le concurrent également. Imaginez que plusieurs concurrents et plusieurs agents qui, finalement, vont peut-être se rendre compte, par hasard ou pas, qu'en s'entendant sur un prix un peu plus élevé, tout le monde y gagne. Puisqu'il s'agit de maximiser le profit, disons, la rentabilité de l'entreprise, rien n'empêche, sans autre garde-fou, de s'en rapprocher, comme vous dites, de la willingness to pay, de la volonté de payer.
À chaque époque, c'est mode, entre guillemets, de paiement. On voit bien que là, on est sorti dans l'ère numérique avec une logique qui était plutôt celle de l'abonnement. Où on a été de plus en plus enclin à payer finalement des prix fixes. Et là, vous dites, avec les agents IA, on va passer à une facturation au résultat. Ça veut dire quoi, une facturation au résultat ?
Alors, d'abord, il y a 4 ou 5 types, disons, de facturation, mais vous choisissez le plus avancé, c'est la facturation au résultat. La facturation au résultat, c'est de dire, au lieu de payer le coût, de payer le temps, de payer même le résultat, enfin, pas le résultat, le résultat immédiat de ce que nous avons produit, là, on parle de résultat de l'impact que vous avez eu. Si, par exemple, grâce à vous, grâce à votre produit, j'ai pu économiser énormément, ou j'ai pu gagner beaucoup de temps, ça a de la valeur. Ouais. Eh bien, pourquoi ne pas avoir une part de cette valeur qui est reversée à celui qui l'a créée pour vous ?
Prenons l'exemple, par exemple, je sais pas, des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats qui facturent à l'heure très cher. Si l'IA fait en 10 minutes ce que des consultants font en 2 heures, finalement, ça profite à qui ?
Ah ben justement, et c'est une nouvelle discipline qui va s'instaurer. Vous avez parlé du pricing en introduction, mais moi je pense que ce qui est plus large que cela, c'est le modèle de revenu. C'est le modèle de revenu qui est remis en cause, comme vous l'avez dit, avec le modèle sur la base du résultat, par exemple. Vous, quelque chose qui prenait 2 semaines, prend maintenant 2 heures ou 2 jours, disons en prenant 2 jours. Est-ce que vous faites payer moins au client et donc c'est lui qui en reçoit la valeur principale, ou est-ce que c'est vous qui gardez comme marge en attendant pour le réinvestir ailleurs, ou est-ce que vous le partagez d'une manière intelligente avec le client, de manière transparente ? Parce que la transparence n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est le modèle de revenu. Le modèle de revenu doit s'adapter. Il y a des modèles hybrides, il y a beaucoup de solutions. Donc, et tout cela est en train de se répartir partout. Il n'y avait pas besoin d'avoir de la créativité en modèle de revenu. Aujourd'hui, on en a besoin, et c'est très utile pour s'adapter. Donc, un consultant peut être payé au résultat ou à autre chose, un abonnement par exemple.
Alors, au-delà de ça, est-ce que les particuliers eux-mêmes seront amenés finalement, quand ils font leurs courses, à payer des prix tous différents.
Alors, si votre question c'est est-ce que l'IA va changer le niveau des prix, je peux vous dire que ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est, je dirais, un découplage, si vous voulez, entre une déflation très forte et une inflation très forte en même temps. Parfois, dans la même société, pour le même type de produit, pour différents types de clients. Je m'explique. Si on l'a vu dans l'exemple du conseil, on pourrait imaginer que d'une transparence, ouais, on va baisser les prix.
Ouais.
Mais d'autre côté, on pourrait augmenter le prix parce qu'on a besoin d'une certaine rareté, d'une certaine connaissance qui, elle, a beaucoup plus de valeur. Et donc, on va l'augmenter. Ou, tout simplement, l'entreprise, avec ses 2 semaines de vacances, entre guillemets, va investir et va avoir beaucoup plus de clients. Donc, il y a plusieurs résultats qui peuvent être issus de ce phénomène. Et ça peut aller dans les deux sens. Aujourd'hui, on a un peu de tout en même temps.
Mais vous êtes bien conscient, par exemple, que la notion de pouvoir d'achat qui est vraiment devenue... S'il y a une notion d'économie que les Français connaissent, c'est le pouvoir d'achat. Demain, ça ne veut plus rien dire, le pouvoir d'achat. Si on paye tous des prix différents...
Comment dire ? On peut payer des prix différents, mais il y a des circonstances vont faire que vous allez payer plus ou vous allez payer moins.
Eh oui.
Vous avez toujours quand même, notamment si vous avez des agents qui travaillent pour vous, vous pouvez donner à un agent de dire, j'ai mon pouvoir d'achat qui baisse de 10%, je veux que mon agent gère mes achats, mais pas uniquement le niveau de prix, ça peut être le produit, l'offre, le moment de l'achat, le fournisseur, les conditions de négociation avec le fournisseur, tout cela peut être évolué. Donc, le pouvoir d'achat est variable, certes, mais il est maintenant dans le pouvoir du consommateur d'être un meilleur acheteur. Même chose pour le vendeur.
Alors, évidemment, tout ça pose tout un tas de questions philosophiques autour du prix juste, par exemple. Mm-hmm. Vous voyez, bon, il y a la théorie des fixations des prix par les coûts. Donc, c'est un prix qui dépend de vos coûts de production. Vous appliquez. Ça va être quoi, un prix juste ?
Un prix juste, c'est dans l'œil de l'acheteur, a priori. Et dans l'œil de l'acheteur en comparaison avec les autres. Donc il y aura toujours la transaction immédiate, et puis il y aura ce qu'il apprendra en parlant avec les autres. Et c'est souvent ce qui est un peu erroné avec l'IA aujourd'hui, c'est que l'IA donnant un pouvoir extraordinaire, on peut maximiser le profit à court terme, ou pour l'acheteur de maximiser le prix le moins cher possible. Mais dans ces deux cas, vous sous-optimisez le long terme. Et c'est cet équilibre entre le court terme et le long terme qu'il faut trouver. Et une chose que je recommande dans mon livre, c'est que on doit se poser la question en tant que consommateur, mais en tant que vendeur, en tant qu'entreprise, de savoir où est-ce que je mets le curseur. Avant, on n'avait pas à bouger ce curseur.
Donc maintenant, ça, c'est quand même l'entreprise qui pourra poser les limites de cette individualisation des prix.
Elle devra poser ses limites. Parce que imaginez, je vais prendre un exemple. En mai dernier, une grande chaîne d'hypermarchés décide d'installer beaucoup de caméras, c'est d'installer des étiquettes électroniques qu'on connaît déjà, qui peuvent changer le prix, et donne carte blanche pratiquement à une start-up et dit « maximisez-moi la marge, maximisez-moi le profit ». En 2 semaines, le profit a explosé. Pourquoi ? Parce qu'avec des caméras, vous savez combien de gens à un moment donné, vous savez exactement à quel moment, mais on n'a pas donné de limite. On peut aller beaucoup plus loin. Donc, si on ne met pas de limite, les profits augmentent, la rentabilité augmente, mais les gens vont comparer. Vous dites « tiens, vous et moi, vous avez payé différemment à une heure près ». Tiens, moi, j'ai passé plus de temps à choisir mon prix et toi, tu as été pressé. Tiens, quelque part, la personne qui était pressée a payé un peu plus que l'autre.
Ouais.
Si on n'a pas ses limites, l'agent va lui maximiser et va faire le maximum sans aucun cadre.
Donc, voilà pour la révolution des prix. Paul Boffa-Combi, alors, avec vous, on est dans un autre type finalement de révolution qui est cette révolution du pouvoir d'agir augmenté grâce à l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il ? C'est quoi ce pouvoir d'agir augmenté ?
Alors justement, ça fait partie du jeu de mots, parce que ça n'est pas que par l'intelligence artificielle. Moi, le pari du livre, c'est de dire que justement, parce qu'on a l'intelligence artificielle et qu'on a par ailleurs tous ces défis dans le monde, il faut qu'on soit augmenté par notre intelligence collective. Et donc, il faut qu'ensemble, on arrive à diagnostiquer une situation, réfléchir, décider et agir pour que justement, ensemble, on soit augmenté et qu'on prenne les bonnes décisions jusqu'à la bonne exécution.
Mais ça, c'est malgré l'intelligence artificielle ou grâce à l'intelligence artificielle ?
Alors, avec, parce que comme vous l'avez dit, en fait, l'intelligence artificielle donne des infos qu'on n'avait pas jusque-là, et donne une autonomie qu'on n'avait pas jusque-là, mais il donne aussi une responsabilité qu'on n'avait pas jusque-là, puisque plus vous avez d'informations, plus vous pouvez vouloir tout seul décider de tout. Or, si vous décidez tout seul, en fait, à un moment, vous perdez pied avec ce qui vous environne. Donc, il faut bien, à un moment donné, trouver un équilibre. Et vous le savez, depuis 20 ans, je travaille sur l'intelligence collective et je trouve qu'on est à un moment passionnant parce que, justement, il faut pouvoir augmenter des deux côtés.
Et parce que là, vous dites qu'il y a une forme de tentation de retour à l'intelligence individuelle augmentée.
Ben, regardez, la plupart des gens vont aller sur, alors je vais pas nommer une intelligence artificielle, mais ils vont aller sur une intelligence artificielle et puis ils vont commencer à avoir des discussions. Et donc les discussions que vous aviez à la machine à café avec votre collaborateur ou avec votre manager ou avec votre dirigeant, ben en fait vous pouvez l'avoir en direct. Donc de plus en plus de gens pensent qu'ils peuvent avoir l'intégralité de tout ce qui est disponible, et d'ailleurs c'est vrai, en temps réel, vous pouvez avoir des bibliothèques entières, vous pouvez avoir des informations sur tout, vous pouvez avoir un échange qui vous donne l'illusion d'avoir un échange vrai, mais qui est biaisé, puisque en fait l'intelligence artificielle, en fait, elle veut vous flatter. L'intelligence collective, en fait, vous avez à un moment donné, si vous mettez les bonnes conditions, et c'est pour ça que je parle des bonnes conditions à mettre dans les entreprises pour avoir l'intelligence collective, vous avez au contraire des biais qui s'annulent, et des intelligences qui s'accumulent et qui s'augmentent. Donc le défi aujourd'hui, c'est de vivre dans les deux, de ne pas dire « je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, bien évidemment, et bien sûr que j'utilise et bien sûr que ça augmente, mais il faut après être qualifié. Qualifié dans ses questions, qualifié dans ses décisions.
Alors,
et qualifié
dans ses actions. » Donnez-nous des exemples, par exemple, de réussite comme ça, parce que d'entreprises que vous accompagnez et qui ont réussi à éviter cet écueil de l'intelligence artificielle individualiste.
Alors, en fait, moi, je suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Moi, ouais. Je suis un spécialiste de l'intelligence collective. Donc, moi, ce dont je parle dans le livre, c'est comment, en fait, on peut soit être biaisé parce qu'on va ne faire que responsabiliser les gens.
Ouais.
Et donc, vous allez jusqu'à une individualisation. Et donc, vous avez des silos qui sont séparés. Et par exemple, une entreprise qui deux personnes qui réalisent un projet dans une entreprise, j'ouvre le livre comme ça, deux personnes qui réalisent un projet vont pouvoir potentiellement annihiler un projet pour 800 personnes parce que ils font quelque chose de travers. Ça, c'est la puissance de la circulation d'informations, mais c'est aussi la puissance d'un client qui a deux entités. Donc, si on agit par silo, on peut mettre en danger une autre partie de l'entreprise. Alors, ça marche dans les pays, ça marche dans les entités. Et puis, si on agit qu'en collaboration, on peut tourner en rond tellement longtemps qu'en fait, on ne prend pas de décision. Et donc, j'en arrive à ce que moi, j'appelle les conversations courageuses qui font que, ben, en fait, on trouve un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans « je tourne en rond pour collaborer », etc., ni dans « je responsabilise et je crée des silos qui, à un moment donné, vont comme si moi je suis tout seul devant mon ordinateur, je prends des décisions et peut-être je mets en danger une autre partie de l'organisation.
Alors comment on met ça en œuvre en fait ? Comment concrètement vous arrivez à apporter cette organisation aux entreprises ?
Mais justement en réveillant les collectifs, donc en réveillant les individus et leurs responsabilités.
Et ça, il y a des méthodes ?
Eh ben oui, c'est ce que je partage dans
le
livre, effectivement.
Expliquez-nous.
Alors déjà, en fait, quand vous avez l'intelligence collective, c'est parce que vous avez trois éléments, que j'appelle le triangle d'or. Vous avez un objectif partagé, vous avez du lien et vous avez un cadre partagé. Et donc, en fait, vous jonglez avec ces trois éléments pour, en fait, arriver à, si vous voulez maximiser le pouvoir d'agir de votre organisation, il faut que vous soyez tous au service du même objectif. Parce que si tout le monde a des objectifs différents, on va pas y arriver. Ça va être pareil avec les équipes d'agents. Et donc ça va être intéressant de voir comment on transpose ça. Déjà, on a du mal avec les personnes réelles qui ont quand même de l'intuition, qui ont le sens de l'intérêt supérieur. Comment on va le faire avec des agents? Je pense que c'est toutes les questions qui sont à venir, d'éthique, etc. Vous en avez souligné quelques-unes. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Donc, l'objectif commun, un cadre partagé, c'est la gouvernance. Si on va sur l'IA, mais c'est pareil dans les entreprises, quelle gouvernance je mets pour que les gens puissent à la fois faire preuve d'autonomie, être responsables, avoir une capacité d'initiative. On a un déficit d'engagement aujourd'hui. Et les études nous montrent qu'à chaque fois qu'on perd un point d'engagement, en fait, c'est 21 millions de salariés dans le monde qui sont concernés. L'engagement, si on n'y fait pas attention, en fait, il y a du PIB en moins. Donc, en fait, engager les gens, c'est leur montrer qu'ils ont une autonomie, donc la responsabilisation, mais qu'ils sont dans un cadre commun, donc c'est la collaboration. Donc, je vais... Il y avait un proverbe qui disait « La liberté des uns commence là où la liberté des autres commence. Ben, » On est exactement dans ce cadre-là. Donc, il y a quelque chose de passionnant et il y a le lien... Donc les conversations courageuses, le dialogue, le respect, l'ouverture, cette capacité à les uns les autres poser les bons éléments sur la table pour que les autres aussi soient au courant de ce qui se passe, qui fait qu'on équilibre.
Ça se concrétise comment ? C'est des réunions,
Alors oui,
c'est des reporting, c'est quoi ?
Alors, les deux, mon capitaine, dans le cadre, il y a du reporting. Ouais. Dans le lien, effectivement, c'est par des réunions, mais on ne tombe pas dans la réunionnite aiguë parce qu'une réunion, de facto, ne garantit pas que l'intelligence collective soit là. Vous avez des réunions où vous allez passer des heures et en fait, il n'y aura aucune décision. Donc justement, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est comme tout est à la portée de tout le monde et que cette IA, elle est là aussi pour nous aider, en fait, c'est comment nous, on va s'emparer de notre propre pouvoir, c'est-à-dire notre pouvoir d'agir, notre pouvoir de décider, notre éthique, tout ce qui fait notre expérience et comment, en fait, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Moi, j'accompagne des équipes de direction, en fait, et puis après, ça se déroule dans l'organisation, à se mettre autour d'une table sur les bons sujets. Vous savez, on peut laisser les sujets sous le tapis ou alors on peut en parler ensemble. Si vous laissez le sujet sous le tapis trop longtemps, les problèmes, ils vont pas disparaître, ils vont juste grandir. Et puis à l'heure actuelle, encore plus parce que tout s'accélère. Donc en fait, quand vous parlez de géopolitique, est-ce que chacune des personnes prises séparément peut avoir la solution ? Non. Si vous vous mettez ensemble, vous allez peut-être trouver une solution augmentée. Parce que vous allez poser un diagnostic augmenté, vous allez donc avoir une solution augmentée. Donc vous allez avoir une capacité d'action et d'exécution bien meilleure, bien plus pertinente.
J'imagine que c'est un peu plus compliqué que juste de mettre des gens autour d'une table.
Exactement. Ouais. Il faut vraiment que ces gens-là, s'expriment. Qu'ils aient pas peur de perdre leur job, qu'ils aient pas peur de dire quelque chose qui serait retourné contre eux ensuite. Donc, c'est vraiment mettre les bons sujets sur la table, au bon moment, avec les bonnes personnes et de la bonne manière. Puisque si je ne fais que, j'ai écrit un livre avant qui s'appelle Le Petit Manuel de Conversation Courageuse. Le courage, c'est pas seulement de dire. Si je vous dis les choses, mais je vous le dis mal, vous allez pas avoir envie de trouver une solution avec moi. Vous allez fermer la porte et donc le problème il va pas être réglé. Si je ne vous dis rien, il va rien se passer non plus. Donc effectivement aujourd'hui on voit bien que il y a un plus grand isolement des gens avec le Covid en plus. Et bon, le télétravail ne concerne pas tout le monde, mais quand on est en télétravail on voit un déficit de collaboration. Si vous ajoutez l'IA en plus et si vous ajoutez toutes les peurs du monde anxiogène dans lequel on est, si les gens s'isolent et si on ne travaille pas cette intelligence collective au sein des organisations, effectivement, on va très vite arriver sur des capacités d'exécution très diminuées avec des gens qui font le minimum, qui ne s'engagent plus, qui ne prennent plus d'initiative. Et donc, c'est vraiment très important pour les entreprises aujourd'hui d'investir dans l'intelligence collective, d'investir
dans ces équipes. Vous dites que c'est le plus grand levier de productivité qui existe aujourd'hui dans une entreprise.
Exactement, parce qu'en fait, vous pouvez, si vous chiffrez le temps passé en réunion, si ces réunions sont de la réunionnite aiguë, ce qui veut dire que les problèmes ne sont pas adressés et que vous passez des heures à tourner et tourner et tourner en rond, alors je fais une caricature, mais ça n'est pas qu'une caricature. Il y a des organisations qui fonctionnent comme ça.
Est-ce que ça demande des qualités nouvelles chez les dirigeants d'entreprise ?
Oui, le courage. Le courage, vraiment. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Et, par exemple, l'université d'été du MEDEF était là-dessus. Moi, j'en parle depuis des années. J'en parle depuis 10 ans. Ce courage-là, en fait, d'affronter les choses réelles et le monde dans lequel on est, effectivement, c'est pas facile de regarder les choses en face. C'est pas facile de confronter les points de vue des autres. C'est pas facile de trouver l'information qui va vous intéresser dans un point de vue qui diverge du vôtre et de l'écouter suffisamment pour pouvoir trouver une réponse. C'est pas facile quand quelqu'un s'adresse à vous, peut-être pas de la manière dont vous voudriez qu'il s'adresse, mais que vous mettez l'intérêt supérieur de l'organisation et que vous allez trouver quand même des solutions avec l'autre, même si vous êtes avec des points de vue divergents. Voilà, moi ça fait 20 ans que je passe ma vie aux côtés des équipes.
Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont des modèles un petit peu de cette façon de fonctionner ?
Alors, vous savez, une entreprise, c'est composé de milliers de personnes. Moi, je suis avec essentiellement des entreprises du CAC 40. Vous pouvez avoir jusqu'à 450 000 personnes. Vous dire qu'il y a une entreprise qui a les 450 000 personnes qui travaillent comme ça, Je vous dirais que ça, c'est compliqué. En revanche, oui, il y a des exemples. J'en donne beaucoup dans ce livre. Et alors, la plupart sont anonymisés parce que mes clients n'ont pas forcément envie de dire qu'ils travaillent avec moi. Après, j'ai aussi, le livre est préfacé par Jean-Dominique Sénard, qui a été dans la responsabilisation depuis très longtemps, tant chez Michelin que chez Renault. Il témoigne dans le livre. Xavier Huillard témoigne aussi de ce que ça a fait chez Vinci, de faire confiance aux gens. Parce que derrière la collaboration, il y a la confiance. Donc il y a le courage, il y a la capacité de faire confiance et il y a l'esprit critique qui se rajoute aujourd'hui. Et il y a aussi le témoignage de Franck Gervais qui, quand il a repris les rênes du groupe Pierre et Vacances Center Park et qu'il y avait une crise majeure, a fait appel à l'intelligence collective pour vraiment regarder les choses et faire évoluer les choses au final. On n'est plus sur des tendances où un dirigeant lui-même va décider d'un plan d'action pour 5 ans, va dérouler ce plan d'action, va faire des to-do à tout le monde.
On paradoxalement, ça paraît presque plus difficile dans les PME que dans les grands groupes. Parce que la PME, c'est quand même l'entreprise qui est dirigé par, en général, une figure peut-être parfois un peu autocratique, ce qui est rarement le cas dans les entreprises du CAC 40.
Vous avez beaucoup de silos dans les entreprises du CAC 40. Vous avez aussi, vous avez beaucoup de rapidité, puis vous avez le court terme. Vous avez un équilibre à trouver entre le court terme et le long terme, puisque vous avez des quarters. Et donc, du coup, il faut aller vite et bien. Et ensemble, on va plus vite et mieux.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc je rappelle vos deux livres, IA et revenu agent ou dirigeant qui décide, Augustin Manchon, donc avec son complice François Candelon, c'est aux éditions Ellipse, et puis Paul Boffa Combi, le pouvoir d'agir augmenté, préface Jean-Dominique Sénard, et c'est édité par vous-même, c'est ça ?
Oui.
Rethink and Lead Edition. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. On la clôturera comme d'habitude avec le coup de cœur de la rédaction, des études, des chiffres. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur de la rubrique Libre dans Alternatives économiques, le magazine. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique dont il est aussi le président. Allez, on commence avec le choix de Jean-Marc, le livre d'Éric Lombard. Ne dis pas ça, sinon tu vas te faire virer. Dis pas ça.
Oui.
Sinon tu vas te faire virer.
Donc chez
c'est aux éditions Albin Michel.
Voilà. Absolument. Donc c'est le livre, un livre traditionnel de témoignage d'un ancien ministre, de l'économie. Il n'est pas le premier à se livrer à cet exercice, mais il le fait de façon assez originale. D'abord, il raconte sa vie, mais pas de façon chronologique. C'est-à-dire, on commence par son passage à Bercy, puis ensuite, on revient dans ses activités dans l'entreprise. À la fin, il revient même sur son enfance, sur des aventures et des problèmes familiaux après le divorce de ses parents. Il explique d'où vient sa famille. Et alors, comme tous ses livres, il a à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on apprend effectivement, on retrouve les enjeux traditionnels de la politique économique française, les jeux de pouvoir qui décident comment tout ça s'articule, avec des anecdotes, ce qu'il faut d'anecdotes pour nourrir l'intérêt du livre. Alors, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'il y a un chapitre, comme toujours dans ces cas-là, qui est le voyage présidentiel. Et donc, dans un format précédent, on avait parlé du livre d'Arnaud Montebourg avec le voyage présidentiel. Là, le président, c'était Hollande. Là, le président, c'est Emmanuel Macron. Et autant chez Arnaud Montebourg, il y avait une ironie mordante, côté un peu comédie dell'arte. Là, c'est très austère. On a l'impression que Éric Lombard est fasciné par le PR, le président de la République. Enfin, c'est un style totalement différent qui rend le livre moins saisissant et moins agréable que celui d'Arnaud Montebourg.
Sauf qu'après, avec le PR, il n'est pas... Il est plutôt assez critique.
Non, il n'est pas du tout critique. Non, c'est assez curieux parce qu'il n'est pas très critique, ni avec lui-même d'ailleurs. Il ne fait pas vraiment son critique. Quand il se pose des questions et qu'il considère que ça s'est mal passé, il se présente plutôt en victime de gens qui l'ont harcelé ou qui ont été ingrats.
C'est pas de ma faute.
C'est pas de ma faute. C'est jamais de sa faute. Et donc, c'est un peu l'inconvénient du livre, c'est qu'on a l'impression qu'il manque un peu de recul par rapport à lui-même. Ce qui fait que, Fondamentalement, c'est un livre que je trouvais intéressant, mais cet aspect un peu, c'est pas de ma faute, ça m'a un peu agacé à la fin du livre.
Ah, moi, je trouve qu'il y a quand même une crise. Enfin, il y a pas une phrase qui est du genre avec Emmanuel Macron. Apollo n'a jamais décollé ou
non,
enfin, je sais pas, moi j'avais j'y ai trouvé des propos assez enfin un peu
pas très critiques. Alors il y a d'assez belles formules, par exemple il dit je ne sors pas de la lampe d'Aladin, il dit jamais je ne suis pas un génie, il dit je ne sors pas de la lampe d'Aladin.
Mais vous en retenez quoi de ce livre, Jean-Marc?
Je retiens effectivement la description d'un appareil d'État, d'un fonctionnement sur la Caisse des dépôts. Il raconte,
mais est-ce que l'avenir, ben, parce qu'il dit attendez, moi il y a quand même autre chose qui m'a frappé. Il dit grosso modo on pourrait réduire finalement les déficits publics sans demander trop d'efforts aux Français.
Oui, c'est pas ça qui m'a intéressé. Je trouve que, par exemple, le chapitre sur le...
C'est parce qu'on n'a pas été intéressé par les mêmes choses.
Le chapitre sur le 11 septembre, le côté émouvant de ce chapitre, parce qu'il avait rendez-vous avec un banquier dans la tour, dans une des deux tours, le 11 septembre. Il se trouve que son interlocuteur l'appelle en lui disant « Il faut que j'accompagne mon fils à l'école, donc j'aurai un peu de retard, on se retrouve pas à 8h30, mais plutôt à 9h30. » Et donc, s'il y avait été à 8h30, il serait mort. Et là, ce chapitre est saisissant et j'ai trouvé ça plus émouvant que le discours sur, vous savez, c'est pas très compliqué de réduire la dette publique.
On va voir ce qu'on pense, Christian, alors.
Bon, le titre est un peu déceptif parce qu'on se dit, ça te terminerait. Donc il a des trucs à nous. Bon, non, il a pas grand chose à nous dire, en fait, notamment sur Emmanuel Macron. Moi, j'ai trouvé, comme Jean-Marc, qu'il n'était pas du tout critique. Il y a quand même un scoop au tout début, c'est qu'il nous dit, j'ai jamais été élu, mais peut-être que ça va changer bientôt. Donc a priori, présenter aux élections législatives l'année prochaine.
Est-ce que c'est une autobiographie ou est-ce que c'est un programme?
Non, on est plutôt quand même dans... En fait, ça mêle plusieurs registres, ouais. En fait. Il y a le registre de l'anecdote, et ça, c'est le côté vraiment sympa du livre. Quand Donald Trump m'a tapé sur l'épaule, quand j'ai dû recevoir une délégation chinoise, quand j'aurais pu être nommé Premier ministre, des petites anecdotes comme ça, ça rend le bouquin vraiment fluide et facile. Il y a aussi le registre, alors je vais aller un peu plus loin que Jean-Marc, quand il n'y a pas d'autocritique, voire il y a on sent que c'est un personnage qui quand même est très content de lui-même, hein. Il arrive à la Caisse des dépôts, c'était la gabegie, il ressort, ça fonctionne, ça ronronne, hein, mais avant lui évidemment. Il arrive chez Generali, c'est une entreprise au bord de la faillite, avec un ou deux copains à lui, ils ont remonté Generali. Voilà, donc toujours quelqu'un qui quand même miroir, mon bon miroir, dis-moi quel est le meilleur ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron, et évidemment on connaît bien la réponse. Donc voilà, il y a c'est fascinant. Alors, je pense que quand on évolue dans ce genre d'environnement, si vous n'avez pas un ego un peu démesuré, vous vous faites écrabouiller tout de suite.
Donc,
il vaut mieux avoir un ego un petit peu démesuré, mais c'est quand même fascinant de voir à quel point ce genre de personnage pense qu'il ne doit ses réussites qu'à lui-même et les échecs, c'est toujours à la faute des autres. Et puis, il y a une partie programmatique, alors, qui est distillée un petit peu au fil du livre. Il nous dit, il y a trop de fonctionnaires. Il nous dit pas combien il y en a trop, mais en tout cas, on comprend qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Il nous dit aussi, alors ça, c'est beaucoup plus étonnant, parce que les recherches académiques aujourd'hui disent tout l'inverse. Il faudrait prendre la verticalité du pouvoir et la hiérarchie du pouvoir du privé, il faudrait la translater dans le public. Or, aujourd'hui, il y a plein de recherches de management qui disent que la verticalité du pouvoir, la hiérarchie en France, c'est une des causes de la faible productivité, le manque d'autonomie des gens, trop forte hiérarchie. Donc, c'est un petit peu bizarre.
Et c'est ce que disait notre invité en première partie de cette librairie.
Voilà, donc je savais pas, mais là on est raccord. Là où il me perd complètement, c'est le petit chapitre sur la dette. Là il me perd complètement. Vous savez, il faut regarder R-G, le taux d'intérêt moins le taux de croissance. Il dit bah regardez, là le taux d'intérêt est déjà supérieur au taux de croissance, donc on est vraiment dans la panade. Sauf que il prend le taux d'intérêt, donc il nous dit 3,7%, parce qu'au moment où il écrit c'est 3,7%. On aurait pu mettre les 4,1, 4,2 d'aujourd'hui, mais il faut pas comparer le taux d'intérêt d'aujourd'hui avec la croissance nominale. C'est le taux d'intérêt moyen sur la dette. Et là, on est vraiment en dessous. Et quand deux pages plus loin, il nous dit notre dette, c'est parce qu'on accumule des déficits. Et si on accumule des déficits, ça cause déficit des retraites. Enfin, franchement, l'année dernière, on avait un déficit public de combien? 5%, 1%. Le déficit des retraites l'année dernière, c'était 0,1, 0,2 points de PIB. Donc, de PIB. Et là, le ministre, il le sait, l'ancien ministre, il le sait très bien. Donc là, il me perd complètement en allant vers une voie trop idéologique.
Allez, alors on change de bord. On va un peu plus à gauche, beaucoup plus à gauche même, effectivement, avec le livre d'Éric Baird, Mélenchonomics. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est le choix de Christian.
Ouais, alors Éric Baird, faut préciser qui c'est l'un des conseillers économiques de Jean-Luc Mélenchon. Donc Mélenchonomics, il va essayer de nous expliquer ce qu'est le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Je passe très vite sur les deux premiers chapitres. Le premier, le développement des idées libérales. Puis le deuxième chapitre, comment les idées libérales ont impacté ou pas la politique économique française. C'est assez lu, c'est assez traditionnel. Je trouve que le livre est plus intéressant à partir du troisième chapitre, où il nous dit, regardez, l'économie dominante, elle nous dit, il faut essayer de régler les problèmes de marché. De temps en temps, le marché fonctionne pas bien, faut corriger ses défaillances de marché, et c'est tout. Il dit non, moi, je m'appuie sur Marx et sur Keynes. Marx dit, en fait, dans la vraie vie, il y a des conflits sociaux, donc il faut prendre en compte les conflits sociaux. Et bien évidemment, pour ce qui est Mélenchonomics, les conflits entre le capital et le travail, les actionnaires veulent un peu plus garder les profits pour distribuer les dividendes, les salariés veulent un peu plus de salaire. Mais il nous dit surtout, on s'appuie, nous, sur une réflexion très keynésienne. Ce qui fait le dynamisme de l'économie, c'est l'investissement des entreprises privées. Pourquoi les entrepreneurs privés investissent ou pas? Eh bien, c'est parce qu'il y a de la demande et parce qu'ils ont confiance dans l'avenir. Qu'est-ce qui détermine tout ça? D'un côté, c'est l'investissement public qui met du boost, et de l'autre côté, c'est le fait que les salariés aient du pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y ait tout ça? L'investissement public, il faut qu'il se développe dans un programme vraiment écologique. Et là, tout le monde aujourd'hui reconnaît que le plus avancé aujourd'hui dans la transcription en termes de politique économique de la lutte contre le changement climatique, c'est la France insoumise et Mélenchon. Et là, il nous justifie pourquoi. Bien évidemment, ça va aussi, quand Mélenchon dit devant la REF, il faut augmenter le SMIC, c'est l'un des éléments qui fait qu'on doit donner du pouvoir d'achat aux gens pour faire de la demande, pour que les entreprises investissent, pour que l'activité économique fonctionne bien. Eric Berne nous dit, oui, évidemment, il y a des conséquences à ce genre de programme, c'est que je vais dépenser vite, mais les impôts que je veux augmenter, ils ne vont pas rentrer tout de suite. Donc, je vais creuser les déficits et je vais creuser la dette. Ouais. Et en même temps, il nous dit, oui, mais dès qu'on a plus de dettes en France, eh bien, on est sous la coupe des marchés financiers, et donc, qui vont nous obliger à faire plus de libéralisme. Comment il résout le problème? Il faut un grand pôle public bancaire, je crois même qu'il emploie l'expression pilotage politique du crédit. Bon, c'est un choix assez particulier. Et voilà, il nous développe tout ça, il nous dit bon, et puis si un jour on est à l'inverse de ce que disent les traités européens, il faudra faire de la désobéissance ciblée. On ne sait pas trop où s'arrête la. Donc moi, je souscris pas du tout à toutes les propositions, à toutes les analyses qui sont faites, mais je trouve que le livre a un vrai avantage. Il y a une réflexion économique et il y a le décryptage de la réflexion économique qui sert au programme de Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez besoin de réanimation, Jean-Marc, ou...
Ah oui, parce que j'ai lu ce livre. Alors d'abord, Christian l'a dit, les deux premiers chapitres sont totalement hors sujet. C'est une critique. Alors évidemment, c'est François Perroux disait, capitalisme est un mot de combat. Dès que vous employez capitalisme, c'est que vous êtes contre. C'est néolibéral qui est un mot de combat. Donc ça commence tout de suite, néolibéral et tout ça. Bon, deux chapitres qui sont en plus assez décousus, assez convenus et assez décousus, avec des ruptures de style. Donc ça prouve que ce sont, en fait, c'est des chapitres qui ont été écrits à des époques différentes. On a le procès de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre. Bon, tout ça est totalement hors sujet. Ensuite, on rentre effectivement à partir de la page 120. Il faut attendre la page 120 pour traiter le sujet. Et donc là aussi, c'est assez désorganisé, parce que Christian l'a dit, il y a une référence keynésienne, mais à un moment donné, l'auteur se dit « je suis franchement post-keynésien ». Et puis un peu plus loin, il nous explique que on a mené des politiques d'austérité très violentes, on a quand même un déficit budgétaire assez élevé. Donc effectivement, il s'en aperçoit au bout d'un moment, et il dit la première chose contre laquelle nous devons lutter, c'est contre ce déficit budgétaire qui a dépassé les 5%. Enfin, il y a tout un tas de textes, à mon avis, qui n'ont pas été écrits à la même époque, qui ont été rafistolés, rebricolés. Il y a une référence essentielle à l'avenir en commun, qui est le livre de programmatique de Mélenchon aux précédentes élections présidentielles, qui a beaucoup vieilli. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles Mélenchon et son parti ne sont plus du tout en phase. Et puis, il y a des formules en disant « nous sommes très attachés à la laïcité, au républicanisme ». Donc quand on voit les évolutions récentes du discours de Mélenchon, on s'aperçoit que c'est peut-être plus aussi utile et aussi important que ça. Au total, qu'est-ce qu'il y a comme mesures concrètes? En fait, effectivement, il y en a trois. Une première, c'est la retraite à 60 ans. Ouais. Une deuxième, c'est d'augmenter les impôts. Et une troisième, c'est effectivement de nationaliser plus ou moins le crédit. Or, je pense que s'il y a trois mesures qui sont totalement absurdes, c'est véritablement l'augmentation des impôts dans circonstances dans laquelle nous sommes. La retraite à 60 ans, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est totalement inadapté à la réalité démographique et économique du pays. Et la renationalisation du crédit, moi qui ai connu l'affaire du Crédit Lyonnais, dont parle Éric Lombard dans son livre d'ailleurs, puisque parmi les choses qu'il a résolues, Éric Lombard, il y a aussi l'affaire du Crédit Lyonnais.
J'en parle le vat n'y est pour rien. C'est Éric Lombard qui a réglé le problème du Crédit Lyonnais.
Donc, je trouve que ce livre est en fait, c'est un peu une sorte de geste militant dans un contexte où les gens qui l'ont écrit sont convaincus qu'ils n'auront jamais été, ils n'auront jamais été confrontés à la réalité.
Merci à tous les deux. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho. L'étude de la semaine.
L'étude de la semaine, c'est ce deuxième baromètre de la transmission des entreprises familiales. Merci Patrick Vincent Génaud d'être venu nous en parler. Vous êtes associé donc chez EY, responsable des entreprises familiales. Baromètre réalisé par EY for Talents, le FBN français Opinionway. Alors, beaucoup de conclusions dans ce baromètre sur les entreprises familiales, qui, rappelons-le, c'est quand même 7 entreprises sur 10. Quasiment, et pareil, 7 emplois sur 10, aussi à peu près.
Tout à fait.
Alors, principaux enseignements de ce baromètre, donc, sur la transmission. Premier enseignement fort, il y a une volonté forte dans ces entreprises de transmettre au sein de la famille.
Tout à fait. 80% des dirigeants vous disent que le mode privilégié, quand ils arrivent au bout de leur mandat, c'est la transmission intrafamiliale. Ça, c'est très intéressant. Et on observe même que pour les dirigeants qui ont déjà reçu, c'est 90%.
Ah ouais.
Et donc c'est un véritable facteur de pérennité. J'ajouterais un élément à votre description, c'est qu'il y a effectivement 7 entreprises sur 10, mais il y a 50% des entreprises qui doivent faire l'objet d'une transmission dans les 10 prochaines années. Mmh. On est donc en train de parler...
La grande transmission, on appelle ça.
En tout cas, voilà. On est donc en train de parler d'un emploi sur 3, d'une entreprise sur 3. C'est donc un élément majeur pour notre économie, pour nos territoires et pour notre autonomie stratégique. Et c'est pour cette raison qu'on fait ce baromètre.
Alors, il y a une volonté de transmettre très forte, mais c'est un peu dans l'exécution que ça commence à se gâter, puisque quand vous interrogez finalement les receveurs qui déclarent une transmission, ils disent « ouais, c'est prévu, mais il n'y a pas vraiment de processus formalisé ». Bon, bref, on a envie, mais bon, on ne s'est pas encore vraiment penché dessus.
Il y a tout le spectre, hein. Il y a de la progressivité, mais il y a effectivement 82% des dirigeants qui déclarent qu'ils ont l'intention de transmettre. Et en pratique, on observe que seuls 6% d'entre eux ont véritablement lâché prise et sur le pouvoir et sur le capital. Alors, ce qui se passe entre les deux, il y a plein d'éléments. D'abord, une transmission, ça prend 10 ans. Mais au-delà de ça, ce qu'on observe, c'est que transmettre, c'est difficile parce que ça implique de lâcher prise. Mmh. Et évidemment, quand vous êtes occupé d'une entreprise toute votre vie, vous y avez consacré toute votre énergie, eh bien, au moment de lâcher prise, il faut mettre en place une forme de progressivité. C'est un sujet sur lequel on insiste beaucoup. Et on voit que ça fonctionne parfois, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et vous avez quand même 40% des repreneurs qui vous disent que leur action est entravée par le fait que le dirigeant précédent
eh oui.
garde une partie du pouvoir décisionnel.
Parce qu'il n'a pas envie de lâcher l'affaire, quoi.
Parce que souvent, ce dirigeant, alors il y a différents facteurs, mais pour 60% des dirigeants, ils n'ont pas de projet d'après. Donc ça, c'est un des éléments. Puis on observe aussi un élément très intéressant, c'est que dans les transmissions qui se font avec difficulté, il y a évidemment l'importance d'avoir un successeur identifié. Ça, c'est 30% des cas, mais 80% des entreprises qui ont du mal à se transmettre n'ont pas de gouvernance structurée. Et donc il est essentiel pour ces entreprises de structurer leur gouvernance pour pouvoir bien préparer la transmission.
Alors, on pourrait se dire... Bah finalement, les obstacles à la transmission, c'est des obstacles qu'on évoque souvent, des obstacles juridiques, fiscaux, financiers. Mais en fait, vous dites, au bout du bout, c'est pas ça l'obstacle. L'obstacle, c'est que la transmission, c'est quand même un enjeu humain, c'est un enjeu émotionnel.
Tout à fait. Alors, j'ajouterais que la lettre de Monsieur le Premier ministre de mercredi permet de confirmer effectivement la pérennité du pacte Dutreil. Dans un contexte de pérennité du pacte Dutreil, vous avez évidemment des enjeux fiscaux, patrimoniaux, juridiques, on sait les gérer. Et puis vous avez l'aspect émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que là où les dirigeants se font accompagner sur les 3 premiers enjeux, qui sont des enjeux techniques,
ouais.
souvent ils ne se font pas accompagner sur les enjeux émotionnels. Et sur cet aspect-là, il y a énormément d'éléments pour les accompagner. Il y a le Family Business Network, bien sûr. Il y a également un élément qui est passionnant, qui est la fresque de la transmission, qui a été créée par For Talent, et qui est très structurant pour permettre d'engager la discussion dans les familles et assurer une transmission.
Alors, le stress, l'angoisse, l'émotion, il est quand même des deux côtés. Il est du côté du patriarche, entre guillemets, qui transmet. Et puis, il y a aussi du côté de ceux qui, finalement, de la génération suivante qui reçoit l'entreprise, qui se dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va pas créer des tensions familiales? C'est quand même une crainte aussi.
Tout à fait. Vous avez d'abord 40% des dirigeants qui ont peur de transmettre un fardeau. Parce que quand on transmet une entreprise, avant de transmettre un patrimoine, on transmet des responsabilités, on transmet une vision, on transmet, quelque part, l'obligation de pérenniser l'actif familial. Et puis vous avez, et c'est intéressant, 65% des repreneurs qui ne se sentent pas toujours à la hauteur, alors même qu'ils sont très préparés, qu'ils sont formés. Donc c'est évidemment une charge émotionnelle très importante.
Ce qui est quand même frappant, c'est que grosso modo, dans 2 cas sur 3 d'entreprises qui sont transmises à la génération suivante, l'entreprise prend un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle impulsion. Et ça, quand on se dit qu'il y a autant d'entreprises qui vont être transmises, bah, on se dit que c'est peut-être aussi l'opportunité d'une régénération du tissu économique français.
Alors, opportunité, je dirais même nécessité. Au fond, les entreprises familiales, comme les autres entreprises, font face à des défis géopolitiques, climatiques et technologiques. Et on se rend compte que quand il n'y a pas de renouvellement générationnel, cette dette, notamment technologique, elle s'accroît. On se rend compte également que la transmission est un préalable à la transformation. Car 65% des repreneurs ont un projet stratégique nouveau, notamment innovation et digital. Et on voit que lorsqu'il y a un repreneur, bah, il est plus jeune, il a plus d'énergie, davantage d'audace. Alors je dis un repreneur, une repreneur, on est bien d'accord. Et donc ces personnes-là vont durablement transformer l'entreprise, ce qui est indispensable à sa pérennité.
Merci beaucoup Patrick Vincent Génaud, EY, d'être venu nous présenter les conclusions de ce deuxième baromètre de la transmission des entreprises familiales.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et cette semaine, on s'arrête sur l'Atlas sectoriel 2026 que vient de publier l'assureur Allianz. Comment les entreprises naviguent entre intelligence artificielle, géopolitique et fragmentation du monde. Allianz parle d'une économie mondiale à 3 vitesses, tant sur le plan géographique que sectoriel. Sur le plan géographique d'abord, le contexte macroéconomique est difficile, mais il tient toujours la route. La croissance mondiale devrait ralentir en 2026, mais quand même avec un rebond en 2027 et avec des performances très différentes, largement soutenues par les investissements dans l'IA aux États-Unis. Par exemple, ces investissements contribuent à eux seuls à environ 1/3 de la croissance américaine, mais même sans ce pilier, les États-Unis ont une croissance 2 fois supérieure quasiment à la zone euro. Sectoriel, ensuite, ces trajectoires différentes avec l'industrie des semi-conducteurs qui surfe sur le super cycle de l'intelligence artificielle, tandis que d'autres secteurs liés aux technologies font face à des perspectives mitigées. Enfin, les secteurs cycliques subissent de plein fouet la hausse des taux d'intérêt, les turbulences géopolitiques et la reprise de la guerre commerciale, secteur automobile et construction notamment.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre éditorialiste géopolitique et international, Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Bon Mathieu, vous avez choisi...
J'ai choisi la Bible.
Oui, vraiment.
La Bible Géopol.
Une des Bibles, voilà, de la littérature géopolitique post-Deuxième Guerre mondiale. Alors il y a Henry Kissinger, bien évidemment, mais il y a aussi Zbigniew Brzezinski. L'Amérique et le reste du monde, le grand échiquier.
Oui.
C'est un livre qui est paru quand ?
Alors, il est sorti il y a 30 ans, en 1997. Brzezinski, donc c'est un ancien conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, et c'est un des plus grands stratèges américains de la fin du XXe siècle. C'est un homme qui a vécu de l'intérieur toute la guerre froide et qui a pensé toute l'après-guerre froide. Et donc là, ce livre, Le Grand Échiquier, va devenir une véritable boussole à la fin des années 90, et il va développer une thèse, Brzezinski, autour de l'Eurasie. Pour lui, l'Eurasie, c'est ça le centre de gravité du monde, c'est la boussole qu'il faut tous avoir en tête. En gros, vous prenez une règle et vous allez de Lisbonne jusqu'à Shanghai. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la personne ou l'État qui arrive à contrôler ou être le plus puissant en Eurasie peut contrôler le monde. Et en fait, il applique cette grille de lecture par rapport aux États-Unis. Il prend comme point de départ 1991, l'effondrement de l'Empire soviétique, et il dit qu'à partir de cette date-là, que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, vous avez une puissance hégémonique globale. Mmh. C'est-à-dire que jamais avant, même Alexandre le Grand, même les Huns, même l'Empire ottoman, personne n'a réussi à dominer dans tous les domaines le monde entier, que ce soit culturel, économique et aussi stratégique, avec ses bases militaires qui quadrillent le monde entier. Donc là, l'Empire soviétique s'effondre, les États-Unis deviennent globales, et si les États-Unis veulent maintenir cette puissance globale, la seule chose qu'ils doivent avoir en tête, c'est empêcher quiconque de contrôler l'Eurasie. Et donc, il va, dans ce livre, regarder tous les pivots géopolitiques de l'Eurasie, en Asie centrale. Il va se concentrer notamment sur l'Ukraine. Il va se concentrer sur des corridors énergétiques, sur des petits pivots comme ça, qui, pris tout seul, peuvent paraître comme ça assez banals, mais au niveau du géostratégique, en fait, peuvent faire toute la différence dans les rapports de force.
Est-ce que ce livre est un témoignage ou est-ce que ce livre est encore un manuel toujours d'actualité?
Ben, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que je l'ai lu cet été et je vous assure qu'il a été écrit il y a 30 ans et ça reste une grille de lecture passionnante pour comprendre et voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui la nostalgie de l'empire de Vladimir Poutine et la menace à l'Est de plus en plus importante, vous êtes dans le grand échiquier. Quand vous voyez Donald Trump qui rebaptise un corridor en Asie centrale, le corridor de Zanguezour qui relie l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui le rebaptise la Trump Road for Peace and Prosperity, vous êtes dans le grand échiquier. Vous êtes sur un des pivots énergétiques dont parlait Brzezinski il y a 30 ans. Il y a une lutte d'influence dans toute cette région. Quand vous regardez le blocage à Hormuz, aussi quelque part, alors il ne se concentre pas particulièrement sur Hormuz, mais quand vous voyez la flotte navale américaine qui commence à battre un peu de l'aile dans ce choke point qui est Hormuz, vous êtes dans le grand échiquier parce que là, pour la première fois, vous avez une brèche dans la puissance hégémonique américaine avec sa flotte qui est malmenée dans le détroit d'Hormuz.
Vous diriez que c'est peut-être un livre de chevet de l'administration Trump?
Oui, et bah livre de chevet de n'importe quelle administration aujourd'hui. C'est une grille de lecture qui est encore d'actualité.
Merci beaucoup Mathieu Jolivet de nous avoir fait partager votre passion pour le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, l'Amérique et le reste du monde, c'est aux éditions Pluriel.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Un livre en anglais, Everybody Loves Our Dollars. C'est quoi? C'est un livre sur d'où viennent les lois anti-blanchiment. Tout le monde aime bien les dollars américains, ouais. Mais pour les blanchir, d'où viennent les lois aux États-Unis au niveau mondial, le lutte contre le blanchiment d'argent sale, et pourquoi c'est une gabegie totale et pourquoi ça ne réussit absolument pas. Chaque chapitre nous démontre que voilà un premier problème, un deuxième, un troisième et un quatrième. L'auteur prend un peu de temps à l'américaine à nous raconter des anecdotes, et quelquefois les anecdotes sont un peu trop longues, mais le livre, sur le fond, c'est vraiment une critique tout à fait raisonnée, intéressante, de pourquoi la lutte contre le blanchiment d'argent sale aujourd'hui dans le monde ne fonctionne pas, et le livre finit par des propositions. Une bonne lecture.
Je croyais qu'on avait eu des progrès.
Oui, mais vous pourrez voir à la lecture de ce livre qu'il y a beaucoup d'échecs aussi.
Bon, Jean-Marc Daniel.
Alors moi, c'est un livre qui revient sur cet événement tragique et dramatique qui a été le 11 septembre 2001, c'est il y a 25 ans maintenant, et donc il y a une abondante littérature. Moi, j'ai fait le choix de recommander le livre de Nicole Bacharan et de Dominique Simonet, qui s'appelle « 11 septembre 2001, le jour du chaos ». C'est un livre qui est assez factuel, parce que derrière cet événement, il y a toute une littérature complotiste, et puis il y a des littératures qui prennent position de façon un peu outrancière sur ce sujet. Non, là, c'est un livre qui est factuel, bien construit, agréable à lire. Donc, pour revenir sur ce tragique événement, je recommande sa lecture.
Allez, moi je termine avec le livre de Bruno Falissard, Écran total, chez Robert Laffont. Bruno Falissard, c'est un professeur pédopsychiatre qui est habitué à étudier finalement l'impact des écrans sur nos comportements, sur les jeunes. Et alors je trouve que, bon, comme on a eu les résultats du classement PISA, où finalement les écrans, le digital, les réseaux sociaux, etc. sont quand même très vite accusé d'être responsable de beaucoup de maux et joue un peu les coupables idéaux, eh bien, dans ce livre, il remet Bruno Falissard effectivement un petit peu tout en place. Il dit il n'y a pas de raison de dramatiser sur tel et tel sujet. Voilà, les écrans ne sont ni aussi néfastes qu'on le croit et peuvent aussi avoir des effets positifs. Voilà, histoire de dépassionner un peu ce débat sur les écrans. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.
La librairie de l'écho sur BFM Business.